France Musique. Les grands entretiens, Nathalie Piollet. France Musique.
Je m'appelle Henri Texier, je suis né le 27 janvier 1945 à Paris 17e, Paris Batignolles, et je suis musicien de jazz.
Henri Texier, on va peut-être commencer par la naissance, janvier 45. Est-ce que quelqu'un vous a déjà raconté, dans votre famille, on vous a déjà raconté le jour de votre naissance ?
Non, je sais seulement que c'était très proche de l'ouverture des camps de concentration. Et la bombe d'Hiroshima a dû péter à peu près à ce moment-là aussi. Donc c'était un moment assez étonnant. Ça, donc, c'est pour la naissance, à Paris 17e, dans la gare des Batignolles. Fils de cheminot, de poseur de rails, émigré breton, d'un milieu extrêmement modeste, mais extrêmement chanceux, ce qui ne sera pas le cas des fils d'ouvriers de la SNCF à partir de dorénavant. Je suis un pur produit de la SNCF, quoi. Je suis un pur produit du service public dédié au confort et à l'équilibre du pays, parce que la SNCF, il y avait vraiment un esprit, quoi. Et grâce à ça, j'ai eu une éducation, grâce à ça, j'ai pu faire du sport, grâce à ça, j'ai pu aller à la piscine, grâce à ça, j'ai pu être soigné, grâce à ça, j'ai pu porter des vêtements décents, grâce au fait que je suis un fils de cheminot, j'ai pu aller en vacances, en colonie de vacances, etc., etc.
Vous devez votre jeunesse un peu à la SNCF.
Ah mais je dois ma vie à la SNCF, parce que grâce à ça, j'ai pu apprendre la musique. Eh oui, parce que sinon, mes parents n'auraient jamais eu les moyens. Ils travaillaient très dur, enfin, je veux dire, poseur de rails. Puis ma mère bossait aussi. Elle était, faisait de la confection la nuit, et faisait des ménages le jour, et etc., etc. Enfin, c'est limite Zola, quoi, l'histoire. Mais c'est marrant, ça ne m'a pas atteint du tout. Mais je n'ai pas de souvenirs malheureux, quoi. Et bien que ma mère faisait nos fringues, tout ça, toutes nos fringues jusqu'à l'âge de 15 ans, je me souviens, j'étais très grand pour mon âge, déjà au lycée, parce que j'allais au lycée, dans le 17e Rupin, Chicos. Mais j'y allais en culotte courte, parce qu'on n'avait pas assez de sous pour acheter du tissu pour me faire des frocs, et je me faisais foutre de moi. Mais ça fait des souvenirs. Mais comme j'étais très grand, il m'emmerdait pas trop, parce que suffisait que je menace et c'était bon, quoi. Je me suis jamais battu, en fait. J'ai pas eu besoin. C'est pratique.
Thank you. Vous êtes un enfant comment, quand vous étiez petit?
Je suis très gentil. Je suis très bien élevé. Je suis très serviable. Je suis très sociable. Je suis un enfant parfait. À part que j'ai beaucoup de mal avec l'école. Je suis pas paresseux, mais ça, j'arrive pas à me connecter à ce truc-là. Alors je me débrouille. Et puis, ce qui me donne une raison de vivre, une raison d'exister, une raison de faire des choses, c'est de la rencontre avec la musique. Très très jeune, mon père a fait des déménagements pour gagner un peu de pognon. Et il avait récupéré, pareil, il déménageait des gens, dans les quartiers chics de Paris, et il avait récupéré un piano. Il l'a amené, il l'a mis dans ma chambre. Il se trouve que dans la famille, il y a un tonton qui, lui, est à la RATP. Il conduit des bus, il est chauffeur de bus. Et tout le monde est d'origine bretonne. Et lui, il jouait dans les balles de la batterie. Et à part ça, il tapotait sur le piano, et il est arrivé un beau jour et il m'a joué un boogie-boogie. Et là, tadam, c'était la révélation. Et donc, je me suis mis à essayer de swinguer tous les exercices de piano. Mais c'est hallucinant. Il se trouve qu'en même temps, à la radio, on entendait beaucoup Sidney Bechet, qui, lui, jouait, était une énorme vedette, et qui jouait du vrai jazz, même s'il jouait les oignons dans les rues d'Antibes, etc., etc. La musique de jazz était quelque chose qu'on entendait quotidiennement.
Mais moi, j'aimerais justement qu'on passe un petit peu plus de temps sur votre enfance, justement sur cette période avant la musique.
Finalement. Avant la musique.
Avant la musique. Vous êtes en culotte courte dans les rues des Batignolles.
Ouais.
Vous jouez à quoi?
Je jouais à ce que les enfants aux billes. Je jouais à des tas de trucs, aux cow-boys et aux indiens. D'ailleurs, j'étais toujours un indien.
Pourquoi vous étiez toujours un indien?
Parce que j'aimais pas les cow-boys. Je préférais les indiens. Puis le côté, je sais pas, j'étais absolument pas conscient, mais j'étais attiré par ça. J'étais pas attiré par les chapeaux de cow-boys, par les pistolets, par. En plus, chez moi. Traumatisme de la guerre, j'ai grandi dans la prairie. Il y a eu un tonton qui était héros de la résistance, qui a été fusillé par les Allemands en 1942 au Mont-Valérien, qui était le frère de ma mère. Et donc, j'ai grandi dans le souvenir de cet homme-là, et aussi dans l'horreur de la guerre. Et donc, il était hors de question que mes parents m'achètent un fusil, un revolver, ne serait-ce qu'en plastique. Et quand, évidemment, comme tous les petits garçons, je prenais un bout de bois, puis que je jouais à tuer n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment, tout ce qui passait, comme tous les garçons, j'étais immédiatement, non pas réprimé, mais on me reprenait tout de suite. On me disait, non, arrête de... ne tue personne, ne vise personne. Même l'évocation d'une arme était totalement prohibée dans mon éducation.
Et ils vous en parlaient, de vos parents, de la guerre, de comment c'était?
Comment, oui. Évidemment, puisque mes parents sont allés en prison. D'avoir fait de la résistance passive, c'est-à-dire de recevoir mon oncle qui était dans la résistance et à Paris. Il a lui-même a été arrêté au coin de la... dans un bistrot qui est tout moche d'ailleurs maintenant. Il avait 20 ans, hein. Attention, c'était pas un... Il s'est fait attraper et donc là, il a été torturé, tabassé, enfin, etc., etc. Et évidemment, il a parlé. Il n'a pas pu nier le fait qu'il était aidé par sa sœur et son beau-frère, tout simplement. Donc, ils sont arrivés à la maison, les Français, hein, pas les Allemands. Hein. Les Français ont arrêté mes parents, etc. Voilà. Donc, ma mère était à la prison, à la santé. Donc, j'ai grandi là-dedans. Donc, ça, c'est ma petite enfance.
Est-ce qu'on parlait politique à table?
Beaucoup, ouais, beaucoup, beaucoup de politique. Mon père, c'était plus un anarchiste d'ailleurs. Il adorait dire ni Dieu ni maître. Mon père, quand il y avait des chefs qui, je l'ai vu moi, ça, il gueulait vraiment. C'était un gueulard, un râleur. Il était très mal embouché aussi. Il était très grossier, voire vulgaire, parce que c'était un choix. Quand il est arrivé à Paris, il a immédiatement renié sa bretonnitude, quoi. Il a tout de suite dit, moi, je suis parisien, il s'est mis à parler comme ça, et direct. Il a refusé le côté pezzouille, quoi, le côté paysan, le côté et provincial, le côté breton, parce qu'on se moquait beaucoup des bretons aussi à l'époque. Beaucoup, beaucoup. C'était comme des émigrés, mais vraiment, ça paraît dérisoire de dire ça maintenant. Mais on se vantait pas d'être breton, parce que c'était parisien tête de chien, breton tête de con. C'était des trucs d'époque, c'est les mecs qui étaient complètement fascinés par Jean Gabin et tout, j'ai grandi là-dedans aussi, en noir et blanc. Voilà, Paris était en noir et blanc. La ville était toute noire, toute sale, toute... Et nous, on était en noir et blanc aussi, quoi. La musique de jazz, c'était en noir et blanc, et voilà.
Et vous, le breton né à Paris, vous avez quel rapport quand vous êtes petit avec la Bretagne ?
Ben, tous les dimanches, je retourne à Rennes chez ma grand-mère.
Et vous avez cette défiance-là aussi ? Cette volonté de vous dire, moi je suis parisien et je renie ?
Ah non, non. Mais moi je suis parisien. C'est pas pareil. Moi je suis né à Paris. J'ai grandi dans un quartier extrêmement populaire. Donc je suis parisien. La Bretagne, ben, j'y vais chez ma grand-mère. Mais je me rends pas compte encore de tout ça, quoi. Mais petit à petit, je vais commencer à m'en apercevoir. Et puis, je vais vraiment découvrir la Bretagne quand je serai jeune homme.
Alors, en 52-53, un truc comme ça, vous découvrez le piano,
oui.
Les cours de piano.
Oui.
Comment ça se passait, ces cours de piano obligatoires ?
C'était une
Pourquoi votre mère choisit de vous mettre au piano ?
Vu dans le milieu dans lequel j'ai grandi, ma mère était frustrée. Elle aurait adoré être artiste, au moins être une institutrice. Bon, évidemment, elle s'est retrouvée femme de ménage, etc., concierge. Et, bon. Et donc, elle s'est dit, moi, mes enfants, il faut qu'ils puissent sortir de leur milieu. C'était un truc qu'on entendait énormément. Il faut sortir de son milieu. J'ai des camarades musiciens, notamment dans la variété, dans laquelle j'ai pas mal pratiqué à une certaine époque. Les mecs faisaient la musique pour pas aller travailler en usine. Et mes parents ont fait tout ce qu'ils ont pu pour qu'on sorte de ce milieu. Et ma mère m'a dit, il faut absolument que tu apprennes la musique parce que tu verras, ça t'ouvrira des portes.
Merci maman.
C'est pas gouré là. Et elle pensait pas qu'elles allaient être aussi grandes que ça, les portes.
Et c'était qui votre prof de piano alors ?
Oh, c'était une dame.
Vous l'aimiez voilà. Bien ?
Non. Oh, elle était pas méchante. Elle était même charmante, mais je l'aimais pas. Parce que comme en même temps je découvrais la musique de jazz, pour moi, je voulais la musique classique. Ça n'existait pas, je voulais pas écouter ça. Je voulais pas écouter la musique classique et je voulais pas écouter de la musique de bal. Je voulais pas écouter d'accordéon. Parce que pour moi, l'accordéon, c'était comme le biniou. Tout le monde s'en moquait. Quand je disais que j'étais breton, les gens ils me faisaient « Ah, t'es breton, ils ont des chapeaux, mais en la Bretagne... » Mais je vous promets, et moi j'étais... Je devenais méchant. Parce que pourquoi ? Je ne comprenais pas. C'était super injuste. Et puis avec le jazz, c'était même pas un refus, c'était même pas un rejet.
Vous n'étiez pas sensible.
J'étais pas sensible à ces musiques-là du tout. Donc je découvre le jazz avec ce petit camarade du lycée où on allait au lycée Carnot qui lui jouait de la guitare et de la clarinette. On a commencé à en parler tous les deux, on a commencé à jouer tous les deux. Le fameux tonton qui m'avait donné le virus... qui était un batteur, on a loué une batterie, tout ça c'est dans ma chambre, on a loué une batterie, on a amené la batterie dans la chambre, et on a commencé à faire un trio, piano, clarinette, batterie. Et là, comme on s'intéressait énormément au jazz, mais on lisait tous les journaux de jazz, moi je découpais dans les journaux de jazz à l'époque, il y avait des pages entières de musiciens, je les découpais, je les collais autour de ma chambre, à partir de ce moment-là, j'étais complètement emboucané, comme on dit dans les Antilles, et pogné, comme on dit au Québec, par la musique de jazz. Mais j'étais habité, quoi. Et voilà, il n'y avait plus que ça qui comptait.
Les grands entretiens d'Henri Texier, France Musique.
Donc à l'époque, vous avez 11-12 ans.
Ouais.
Comment vous faites pour trouver les disques, pour écouter ?
Alors pour écouter, on va... on circule aussi. On circule beaucoup à pied. Et avec mon petit pote, on va à Lido Music, un marchand de disques qui était spécialisé dans le jazz. Donc on y va. Et on a le droit d'écouter les disques. Alors ça, c'est génial parce qu'il y a des cabines. Puis avec mon petit pote, on se met à deux dans la cabine. Et on écoute le disque. Évidemment, le mec, il voit bien qu'on n'a pas d'argent pour l'acheter, quoi. Mais pas de problème. Et puis, aussi, à la radio, il y a pour ceux qui aiment le jazz. Alors là, toutes les nuits, moi, je prends le poste de radio sur lequel il y a un pick-up. Puis je le mets près de mon lit parce que mes parents dorment à côté. Je le branche dans ma jambe près de l'oreiller. Je mets tout doucement et j'écoute et je m'endors avec pour ceux qui aiment le jazz. Mais toutes les nuits, quoi. Et c'est comme ça que j'écoute cette musique-là. Et je me souviens de tous les noms, de qui joue dans quel groupe, les titres des morceaux, tout. Et puis, avec mon petit, toujours Alain Tabarnouval, quand on commence à avoir un petit peu de sous, un peu d'argent de poche, parce qu'on fait des bricoles à droite et à gauche, moi, je... Enfin,
bon, là, vous faites quoi? Là, ça, c'est, vous faites quoi?
C'est le misérabilisme. Je fais des ménages. Je fais des escaliers, je lave des escaliers et des paliers, voilà, des immeubles. Ça fait un peu des sous. Et puis vers 14-15 ans, il y a des surprises parties. Et des fois, dans les surprises parties, on va jouer et des fois, les gens nous donnent un peu de sous. Moi, je les garde précieusement pour acheter des disques. Et bien, c'est fou. Et avec Alain Tabarnouval, on s'achète des disques à deux. Ça n'a plus rien à voir avec maintenant, quoi. C'est carrément... On est dans un autre monde.
C'était quoi les disques, les fameux premiers disques que alors vous écoutez avec votre copain
Alors, mille et une choses. Alors, on était extrêmement fascinés par Miles Davis, les quintettes de Miles Davis, et ce qu'on trouvait en France, parce que tous les disques américains, on les trouvait pas. C'était des éditions qui étaient fabriquées en France. Donc, les premiers Miles Davis qu'on entend, c'est Miles Stones, Kind of Blue, et puis Cannonball Adderley. Mais les premiers quintettes avec Bobby Timmons et tout ça. Et puis, les Jazz Messengers. Alors là, parce que les Jazz Messengers, ils sont venus jouer au Club Saint-Germain à Paris. Donc, ils ont une grande réputation. Puis, Thelonious Monk, parce que Thelonious Monk est venu, et il a enregistré un solo à Paris. Et ce solo est paru sur un disque Vogue. Et c'est le premier disque que j'achète tout seul. Et j'écoute ça, et je me mets immédiatement à essayer de jouer comme Thelonious Monk au piano. Voilà, ça a été ma première idole pianistique.
Henri Texier, est-ce que vous reconnectez un peu avec le piano, alors, en écoutant du jazz?
C'est-à-dire que c'est le seul instrument sur lequel je puisse m'exprimer. Puis avec mon petit pote Tabarnouval, on connaît personne. Donc on lit dans les journaux de jazz, il y a des petites annonces. Et on passe des petites annonces pour rencontrer des musiciens. Parce qu'on n'a pas l'âge pour aller dans les clubs. Moi, les premières fois que je vais dans les clubs, j'ai 15 ans. C'est attention, la majorité, c'est 21 ans à l'époque. J'ai 15 ans, mais je suis grand. Et je commence à avoir du poil au menton. On va à la Cigale. À ce moment-là, il y a un orchestre. Et cet orchestre, c'est un quintet, comme le quintet de Cannonball Adderley, avec un altiste qui s'appelle Émilien Antil, qui joue comme Charlie Parker, avec un tromboniste qui s'appelle Al Lirvat. Et c'est la première fois que je vois Eddie Lewis au piano, tout gamin, qui fait un remplacement. Et on va là. Et vous rendez compte, nos parents, drôle d'époque aussi, on a quoi? On a 15, 16 ans, pas plus. On monte du bas de l'avenue Clichy, on fait toute l'avenue Clichy, on va jusqu'à Pigalle, on traverse tout Pigalle, on va jusqu'à la Cigale, à pied évidemment, la nuit. Et alors on a 3,50 francs et on s'achète une limonade parce que il y a un coin où il y a des gens qui peuvent boire des verres mais qui n'ont pas le droit à l'alcool parce qu'ils n'ont pas la majorité. Donc on boit une limonade et puis on écoute le jazz en vrai. C'est les premières fois que j'écoute du jazz vraiment en vrai, c'est à la Cigale. Et puis on redescend à pied, il est minuit, 1h du matin, et on traverse tout le quartier avec... c'est chaud parce que c'est gangster, c'est machin. Il nous arrive jamais rien. Il n'y a jamais de problème. Aucune crainte.
Eddie Lewis, qui a un petit peu grandi depuis qu'Henri Texier l'a aperçu tout jeune dans ce club en sirotant de la limonade. C'était sa version de Colchic dans les prés. Merci à Gilles Blanchard, Yvan Charby, Marion Guimet et Éric Boissé. Toute la sélection musicale, la réécoute, les podcasts sur francemusique.fr. On se retrouve demain pour la deuxième partie des grands entretiens d'Henri Texier.
À réécouter sur francemusique.fr.